Couture dans le mille.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Fait que, c'est ça.
Radio X.
Ouais, ben c'est officiel, le gouvernement du Québec qui déclenche une enquête publique pour faire la lumière sur toutes les collisions mortelles impliquant des camions lourds. Et là, dans le cas qu'on nous dit, on va enquêter là, sur les décès de Tania et Elliott Lalonde, survenus le 27 août 2025 sur l'autoroute 30 à Boucherville, qui impliquerait un conducteur québécois.
Ouais.
C'est une auditrice là, qui dit « Faites attention, là. Oui, il y a des accidents qui impliquent des chauffeurs qui viennent pas du Québec, mais il y en a beaucoup d'accidents aussi avec des chauffeurs québécois. »
Ben, ça, oui.
Donc, on dit que on va faire la lumière sur toute l'industrie aussi. Comment tout ça s'est produit. Parce que je pense que la veille ou deux jours avant, il y avait eu aussi un cas impliquant un chauffeur Ing de l'Ontario. Là. Donc, voilà. Notre invité, il est là. Chroniqueur ici à Radio X. Médecin Karim Elayoubi. Comment allez-vous?
Oui, ça va bien. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Comment vont les négociations avec les médecins? Est-ce qu'on a des mises à jour là, sur les... parce que là, on comprend que la médiation, on a mis fin à ça. Est-ce qu'on se parle toujours? C'est quoi qu'on a comme les dernières nouvelles à ce propos?
Ben ça vient de changer juste au moment où on est en train j'étais en train d'attendre dans l'antichambre de vous parler. Ça vient juste de changer parce que, rappelons, quand on s'était parlé il y a deux semaines,
ouais.
Il n'y avait pas d'entente, c'était autour du projet de loi 106, des ententes de cadre entre la FMSQ, la FMOQ et le gouvernement. Là, en date là, de ce matin, juste avant qu'on se parle, la FMOQ, donc Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, on fait appel à la médiation. La médiation avait débuté et on semble très loin d'une entente là, parce que le médiateur, lorsqu'il est arrivé, il l'a mentionné, il a dit « on met ça sur pause » parce que les positions semblent tellement diamétralement opposées entre le gouvernement et la FMOQ qu'il n'y a pas eu de possibilité d'entente. Donc, il n'y a pas de négociation à l'heure actuelle. La médiation, elle est sur pause, disons, entre la FMOQ et le gouvernement, parce que, rappelons que le projet de loi 106, projet avec les facteurs de PERFA, le changement du mode de rémunération des médecins, particulièrement les médecins omnipraticiens, et les facteurs de performance de pénalité de 25% si les objectifs collectifs et non individuels ne sont pas atteints. Le ministre Dubé avait dit qu'il pourrait peut-être descendre à 15%.
Ouais.
Ça, ce qu'on comprend là, quand on lit entre les lignes, c'est que la FMOQ, c'est un non catégorique. Et pour le gouvernement, c'est très important de continuer dans ce sens-là. Donc, mais le médiateur a dit, je peux rien faire avec ça pour l'instant. Si on lit entre les lignes, ça veut dire mettez de l'eau dans votre vin, quelqu'un ou les deux, parce qu'il n'y a rien à faire pour l'instant. La FMSQ, c'était passé la même chose, mais en lisant entre les lignes, ça semblait le ton être moins sévère un peu. Il disait, on met sur pause, le médiateur met sur pause pour que les représentants du gouvernement aillent revoir le cadre à travers lequel ils veulent négocier, parce que ce que la FMSQ dit, c'est qu'ils ne veulent pas négocier le projet de loi 106 lui-même. Ils considèrent qu'il est inacceptable, mais sont prêts à continuer à négocier avec le gouvernement sur l'entente cadre. L'entente cadre, ben, c'est les ressources disponibles,
ouais.
L'enveloppe budgétaire, les conditions de travail, ces choses-là. Donc, le ton semblait être moins sévère du côté de la FMSQ. Et ce qu'on voit là au moment où, juste avant qu'on commence à se parler, il y aurait une reprise de médiation entre la Fédération des médecins spécialistes et le gouvernement. Ça vient de sortir là, en ce moment.
Est-ce qu'on sent vraiment une intention réelle de régler du côté du gouvernement ou on veut étirer à sauce pour peut-être passer ça au baillon à un moment donné?
Bien, c'est sûr que je pense que ça va être difficile de passer en totalité au baillon parce que, je veux dire, à la fois, les deux fédérations de médecins sont complètement contre le projet de loi 106. Ça devient difficile dans une société démocratique de passer quelque chose dont les membres d'une... Habituellement, lorsque le gouvernement passe des projets, moi, c'est la première fois que je vois ça, même depuis que je suis étudiant en médecine, que les deux fédérations et qu'à peu près une majorité très, très forte, là, plus de 90% des médecins sont contre. Habituellement, à travers la communauté, il y a des gens qui vont voir les choses de façon différente, qui vont être... C'est souvent partagé. On voit du 60% contre, du 70 % du 72. Là, on était à la SMOQ, on était autour de 91-92. Donc, c'est des très fortes majorités. Ça deviendrait difficile. Je pense que le gouvernement n'a pas le choix de mettre de l'eau dans son vin ici. Par contre, d'abandonner complètement 106, j'ai de forts doutes parce que ce serait très mauvais politiquement pour la CAQ. La CAQ a été reconnue pour faire du 180 degrés avec bien des choses, oui. que ce soit GNL Québec, que ce soit le troisième lien. On pourra avoir bien d'autres exemples. S'ils font complètement 180 degrés avec le projet de loi 106, ce que je souhaite personnellement, mais je pense pas que ça arrive parce que politiquement, il y aurait un prix à payer là, assez sévère.
Mais l'important, c'est que là, on se parle, il y a un dialogue.
Oui.
Et on peut continuer là à régler des choses à gauche, à droite, puis peut-être arriver à un moment donné au monétaire.
Tout à fait. Ce que la FMOQ demande, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la médiation est impossible, ce qu'il demande, c'est d'aller en arbitrage.
Oui, exact.
Que les deux... Et ça peut être une solution aussi, parce qu'à un moment donné, il faut débloquer. On peut pas avoir là, constamment là, des fédérations de médecins qui s'entendent pas avec le gouvernement, puis que ça prend au-dessus d'un an, un an et demi des négociations. Ça fait pas de sens tant qu'à moi. À un moment donné, si les médiateurs s'entendent pour dire que les positions sont trop diamétralement opposées, ben qu'il y a une instance neutre qui tranche entre les deux pour qu'on puisse passer à autre chose.
Voilà, ça sera surveillé. Santé Québec. Là, on a mis sur pause deux gros projets informatiques et là, on apprend que du côté du gouvernement, ça faisait plusieurs mois, même plus d'un an, là, qu'on disait à Santé Québec abandonner ou à tout le moins mettre sur pause ces projets-là. Un projet notamment sur les ressources humaines qui était prévu, estimé à 220 millions, on serait rendu à 750 millions. Et le dossier numérique aussi qu'on met ça sur pause. Comment on voit ça à l'interne?
Ben, c'est quand même triste, hein, parce que regardez, je vais juste donner des exemples qui sont assez concrets. L'hôpital où est-ce que je travaille, on a changé le système informatique. Ça coûte de l'argent, changer le système informatique. Là, le gouvernement, ça fait longtemps. Puis ce qu'on appelle le dossier Santé Québec, ça fait longtemps qu'on y travaille. Ça fait plusieurs années. Ouais. Il y a encore des choses qui sont pas disponibles, mais il n'est pas interconnecté avec l'ensemble des systèmes un peu partout. Ça, c'est une problématique. Lorsqu'on regarde des systèmes qui sont très performants, entre autres l'Alberta, on en a un qui est très performant, il est interconnecté à travers toute la province et il fonctionne très bien. Lorsque vous allez visiter des hôpitaux aux États-Unis, je veux dire, les systèmes informatiques sont très, très, très performants. Nous, on devrait avoir un système qui est interconnecté à la grandeur de la province, l'équivalent du dossier Santé Québec, mais disons sur les stéroïdes, c'est-à-dire performant qui fait en sorte que si vous allez consulter en Abitibi, puis moi, je suis dans les Laurentides, puis vous êtes mon patient, je rentre dans votre dossier, je suis capable en temps réel de voir qu'est-ce qui s'est passé la veille, quand vous avez eu votre accident ou votre malaise en Abitibi. Ça, et que tout se passe à l'intérieur de ce dossier-là, et que vous envoyez les prescriptions directement de par ce dossier-là, les communications entre les médecins, entre les spécialistes, entre les professionnels de la santé, ça, c'est dans un monde idéal.
Ouais.
Et là, on gagne énormément en productivité en faisant ça. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus de dossier antérieur, et même vous introduisez une IA, une intelligence artificielle à l'intérieur, qui fait en sorte que l'ensemble de vos fenêtres sur lesquelles vous travaillez, l'IA, elle va se souvenir, parce que l'erreur est humaine, l'humain, on peut oublier, mais avoir un mécanisme qui dit « Oh, M. Couture, ça, on est dû pour sa colonoscopie. On est dû pour...
Ah, » on le rappelle.
Ouais, exactement. Donc, un genre de système comme ça, énormément de gains de productivité, ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans. Mais le problème au Québec, ça nous coûte toujours... On est toujours dans des départs. Et ça dépasse là, juste l'histoire de la santé. On est toujours dans des dépassements de coûts faramineux qui font aucun sens.
Mais 220 millions à 725 millions, là, c'est quand même surprenant quand même. C'est l'équivalent du scandale de Saclic.
Oui, oui. Et donc, c'est l'équivalent du scandale de Saclic. C'est là qu'on voit, puis on le voyait également avec la commission Charbonneau à l'époque, on s'est rendu compte que les choses n'ont pas nécessairement complètement changé depuis
non.
ce temps-là.
Non.
Là, on a le scandale Saclic. Au Québec, il y a vraiment une prise de conscience à faire et il faut que les citoyens fassent payer le prix politique aux dirigeants, au gouvernement, aux ministres qui ne sont pas capables de contrôler les dépassements de coûts à l'intérieur de leur ministère. Il y a vraiment l'ensemble des ministères, l'ensemble des projets, la façon de fonctionner, la façon de faire des appels d'offres, doit être révisé, doit être inspecté, parce que, autrement dit, on vole les contribuables. Ça, c'est une réalité. Lorsque c'est supposé coûter 220 millions, on est rendu à 700 quelques millions, il y a des contribuables qui se font voler en arrière, et ça affecte pas juste le réseau de la santé, ça affecte tous les paramètres, ça affecte la construction, ça affecte l'éducation. Et si au Québec, on n'est pas capable de sortir de ce mauvais pli qu'on a pris, de ces dépassements de coûts qui sont inacceptables, à partir de ce moment-là, ça va être très difficile de pouvoir rivaliser avec nos pairs et de dire qu'on va avoir un système informatique en matière de santé qui est à la hauteur de celui de l'Alberta, par exemple, ou de certains États américains.
Ouais. Dossier numérique, y croyez-vous? Est-ce qu'on y croit encore? Parce que ça, encore là, on vient de mettre ça sur la glace, là.
Ben, je veux dire, si je vous disais aujourd'hui que j'y crois pas, ça voudrait dire que je suis en train de dire devant au micro qu'on est plus cave que tout le monde ailleurs.
Mais pourquoi ça marche ailleurs puis ça marche jamais ici? C'est ça que je me pose comme question.
Ben, c'est pour ça que, pourquoi ça marche? Ben, on a une culture de dépassement de coûts, on a une culture de manque de transparence, je crois.
Et de reddition de comptes, peut-être aussi, de suivre les dossiers. On l'a vu, là, pendant la commission Galland, les élus, là, les coûts, là, ça les intéressait pas.
Exact, c'est en plein ça. Et depuis, lorsque vous disiez, par exemple, pour le dossier numérique en santé, ça fait pas... Oui, ça fait depuis que Santé Québec, au-dessus un petit peu... Santé Québec, c'est autour d'un an, à peu près, qui ont été alertés. Mais quand on regarde comme il faut dans l'article, ça fait depuis 2022, bien avant l'arrivée de Santé Québec, qu'on demandait déjà au ministère de la Santé, que le ministère de la Sécurité, de la cybersécurité, demandait au ministère de la Santé, à M. Dubé, de faire un audit sur le projet, de mettre fin au projet pour l'instant.
Absolument.
Parce qu'il y avait des dépassements de coûts qui étaient faramineux. Donc, le ministère de la Santé se fait interpeller par le ministère du numérique et M. Dubé, lui, il se met des bouchons dans les oreilles puis il n'écoute pas. Donc, on a un problème de gestion à travers le gouvernement même.
Oui, c'est ça qui est inquiétant. Et là, on dit qu'on met ça sur pause. Et là, on apprend par les libéraux que finalement, ces contrats-là, on y va avec l'opting out. On va être obligé de dédommager les compagnies informatiques.
Ben, exactement, on les dédommage.
Fait qu'on signe en plus d'être pas bon dans la gestion, on signe des mauvais contrats.
On signe des mauvais contrats. Puis ça s'était passé aussi avec GNL Québec. Le gouvernement est poursuivi pour des centaines de millions, voire même, je pense, près d'un milliard de dollars.
Ben oui.
Je sais que c'est pas le domaine de la santé, mais que ça se recoupe ensemble. Donc, comme vous dites, on donne des mauvais contrats. Puis après ça, donc là, non seulement on n'a pas de numérique, mais il faut payer quand même. Il faut payer quand même ceux avec qui on avait fait un contrat, donc de l'argent complètement à l'eau. Puis pour répondre clairement à votre question, j'y crois encore parce que tout le monde est... je veux dire, si les Albertains sont capables d'avoir un super de système, il n'y a pas de raison pour que nous, on ne soit pas capables. Il faut se regarder dans le miroir, corriger nos mauvais plis, demander des redditions de comptes et demander de l'imputabilité à chaque et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est tort, quelque part.
Voilà. Est-ce que l'IA va sauver la santé, le système de soins de santé? Parce que là, on dit que Santé Québec investit dans l'IA. Là. Je sais qu'il y a quand même des avancées marquantes de l'IA pour des réseaux de la santé, mais je ne sais pas si on a les bons pions aux bonnes places. Là, ou...
C'est à long terme, la réponse, c'est clairement oui.
Elle va prendre le dessus, c'est ça.
Oui. À long terme, c'est clairement oui. À long terme, est-ce qu'on parle de 20 ans, de 30 ans, de 15 ans, de 35? Difficile à dire parce que l'accroissement de l'IA, là, c'est exponentiel en ce moment. C'est pas juste directement proportionnel au temps.
C'est partout, dans tous les domaines.
Exactement. Là, si on veut faire l'état des lieux de l'IA en santé, moi, je l'utilise personnellement, ça m'aide beaucoup. Mais je ferai le lien un peu. Je vous écoutais sur la route lorsque vous parliez là, de l'IA et du droit. Tu sais, qu'il y a
exactement. Les codes de jurisprudence, là, faux, là, erronés. Là.
Exactement. Moi, ce que je vous dirais, c'est que, par exemple, pour la santé, disons que vous avez ChatGPT version payante, puis vous demandez de faire une recherche. Excellent, est capable de scanner le web à la vitesse de la lumière, parce que c'est des ondes électromagnétiques, va être en mesure d'aller vous chercher une information, par exemple, rapidement sur le chest ou l'American Association of Cardiologists ou des choses comme ça, et ils vont aller vous chercher une référence très rapidement pour que vous ayez la bonne réponse. Lorsque vous lui demandez, par contre, de l'interprétation...
C'est autre chose, là. Oui, c'est ça.
Oui, c'est là, c'est un peu comme le lien que je fais avec le droit à la jurisprudence. Si vous venez dans mon bureau puis vous me dites, vous avez des idées suicidaires, vous avez mal dans la poitrine, vous avez mal aux genoux, puis votre petit orteil vous gratte. Bon, moi, sachant que je ne peux pas passer 7 heures avec vous dans le bureau parce que j'en ai 25 à voir, va falloir que je regarde, que je dis, OK, ben, le petit orteil qui gratte, là, montrez-moi-le vite, mais ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est vos idées suicidaires et votre poitrine.
Ouais.
On va peut-être se concentrer là-dessus, puis on va voir si on peut pas faire des liens avec tout ça. L'IA n'est pas rendu là. C'est-à-dire, tu as besoin d'un être humain qui est spécialiste dans le domaine.
Le jugement qui appelle.
Tout à fait. Donc, l'IA ne remplace pas du tout le jugement clinique à l'heure actuelle. Est-ce qu'un jour ça va arriver? J'en suis persuadé. Mais à l'heure actuelle, c'est un outil qui peut faire gagner beaucoup de rapidité. C'est-à-dire, disons que je veux faire une note clinique, je peux dicter à l'IA avec ma voix, lui donner un input assez minimal pour qu'il me fasse une très belle note bien structurée. Et en plus de ça, ce ne sera pas écrit à la main. Moi, j'écris très mal à la main, donc mes collègues vont être capables de me lire. Donc ça, c'est une belle avancée.
Mais le jugement du médecin demeure vital, parce que c'est pour ça qu'on... Et puis c'est pour ça que vous êtes encadré par un ordre aussi, là.
Absolument.
Et je ne suis pas sûr que ChatGPT... Parce que l'autre problématique, on l'a vu, il y a des gens qui vont chercher des... Ils vont chercher des conseils de psychologie auprès de ChatGPT, là.
Non, faut éviter ça parce que l'IA n'est pas rendu là encore. On a vraiment besoin du jugement clinique.
Ouais, exact.
Et ça, c'est ça qui est long, le jugement clinique. Hein? La plus grande difficulté en médecine, qui sépare deux médecins là, en termes de qualité la plupart du temps, c'est pas tellement le nombre de connaissances. Le nombre de connaissances, on a quand même beaucoup de temps pour les apprendre, mais ce qui est très difficile, c'est pour ça que c'est long et qu'il y a beaucoup de stages, c'est ce qu'on appelle la transposition clinique. C'est-à-dire avoir le jugement clinique.
Les cas cliniques, oui, puis d'être capable de dégager peut-être une espèce de consensus autour, là, tu sais.
Oui, tout à fait.
Karim Elayoubi, toujours un plaisir. Merci beaucoup et bonne fin de semaine. Bon week-end.
Ça m'a fait plaisir. Bon week-end.
À bientôt.
Voilà. Non, mais c'est sûr, là. Tu sais, ChatGPT, puis là, le médecin...
Il surveille, là.
Non, non. C'est tant qu'à ça. Mets un ordinateur. Et je vais devenir médecin, moi, le petit médecin à maison, puis ChatGPT va tout me donner.
Ouais. Puis là, il va lui demander... OK, ah, c'est... Fait que finalement, tu diagnostiques que c'est ça que j'ai.
Non, mais...
Envoie ma prescription en pharmacie.
C'est ça. Ben, ouais. L'IA va amener des choses pour aider, là, mais le jugement...
C'est un outil.
Oui.
C'est un outil de plus qu'il faut que tu...
Exact.
Prennes le temps... de passer par-dessus ensuite.
Mais il faut faire attention aussi, tu sais, dans le cas de la personne qui pensait que ChatGPT était devenu un avocat pour lui, là.
Non, mais c'est ça. C'est parce qu'il ne faut pas que tu prennes tout ça pour du cash, ce qu'il te dit, là. Et pas juste ChatGPT, les autres intelligences artificielles également, là. Mm. Tout ce qui est outil conversationnel, il va chercher de l'info sur le web.
Psychologue. Il y a du monde qui sont rendus, là, ben qui ouais, ChatGPT est devenu un psychologue.
Mais c'est parce qu'avec la version payante, tu peux y parler, là.
Oui.
Puis là, elle te parle, là, comme si c'était ta chum, là, ou ton ami, là.
Là, y a dépendamment Sora, de la voix que tu choisis. As-tu vu la nouvelle application? Sora. Ça, c'est ChatGPT. C'est sur invitation, là. J'ai pas eu d'invitation.
OK. Encore.
Mais ça, Sora, là, c'est des vidéos. C'est une nouvelle application.
Oui, OK, j'ai entendu parler. Dans le fond, c'est que c'est comme un genre de TikTok ou Instagram. Puis tout ce qui est offert là-dessus, c'est tout créé par l'intelligence artificielle.
Exactement. Là, on rentre dans un autre niveau. Là.
Ah, mais hein.
Voilà. Après la pause,
oui.
Enfin, on va ouvrir les lignes.
Absolument.
On va où?
88-670-9098.
On a du stock en masse, là.
Je vous rappelle qu'en participant à la ligne ouverte cette semaine, vous pouvez gagner. On va faire un autre finaliste aujourd'hui et un gagnant là, parmi les finalistes de la semaine. 100$ à dépenser chez Benny.
Un brun.
100$.
Ben oui.
Poulet pour la fin de semaine. Là. Ouais, donc.
Let's go.
Fait que en participant à la ligne ouverte, assurément, vous pourriez être finaliste et gagner ce 100$-là.
Ouais, la question.
Il ben, y a beaucoup de choses.
Ouais. L'intelligence artificielle, moi, je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que vous l'utilisez, l'intelligence artificielle?
Moi, je l'utilise, Pierre.
Mais pour des jugements, est-ce que tu es conscient que c'est peut-être pas tout...
Ah ben oui, ben, je fais attention. Puis tu sais, moi, je m'en sers plus comme outil, tu sais...
Français, pour... mettons, pour faire des
ouais,
titres.
Ouais, ben, pour faire des titres, pour corriger des phrases,
ouais,
absolument.
Oui, oui, oui.
Je m'en sers pour lui demander de l'info. Hey, peux-tu me donner telle information sur, par exemple, taux d'imposition, telle okay. affaire?
Mais ça, des fois, elle peut être ben, dans le champ.
Faut que tu vérifies, là.
Ouais.
Faut que tu vérifies. Mais je demande de l'info, des fois de l'aide, là. Puis surtout pour la programmation. C'est capoté, ça.
Ça, la programmation, tu l'as, les lignes de code. Mais ça se peut que les lignes de code soient pas bonnes aussi, soient pas bons, là.
Ça m'a pris... pour quelque chose de simple, beaucoup, beaucoup de temps parce qu'effectivement, les lignes de code n'étaient pas parfaites. Là.
Bon, moi, on connaît du monde qui ont fait faire des soumissions sur un projet d'application.
Oui.
On avait des prix de compagnie, c'était 250 000 $, 200 000 $. Puis la personne a dit, je vais prendre mon abonnement à ChatGPT. Tu es allé chercher ligne de code.
Oui.
Puis là, ça marche. L'application fonctionne, là.
Ben oui, je sais, je travaille sur des projets, moi, puis je ne suis aucunement un codeur. Je ne connais pas ça. Puis ça marche, là.
Oui. Donc, l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez recours de plus en plus à l'intelligence artificielle? Est-ce que vous êtes dans le doute aussi par les réponses?
Faites-vous confiance, oui.
Est-ce que vous contre-vérifiez les réponses souvent? Ben écoute, là, si tu en vas en cours... Puis tu déposes ta contre... comment t'as...
Ben, ta plaidoirie, là.
Ton plaidoyer par rapport à l'IA avec de fausses... de faux cas de jurisprudence.
Ouais, là, ça va pas bien.
Là, t'es dans le trouble à peu près. Là. Imagine-tu un médecin qui se fiche juste à ChatGPT...
Marche pas.
Puis qui dit, finalement, là... ça allait bien. Prends une aspirine, va-t'en chez vous. Puis finalement, t'as un problème de cœur. Ouais, c'est...
Ça va mal finir.
Donc, voilà.
88-670-9098.
On vient après la pause.
Couture dans le mid.
Téléphone, texto. 88-670-9098.
C'est ça.
Radio X.